Merci à l'IMAOV, l'Institut des médecines alternatives et ostéopathie vétérinaire, de sponsoriser cet épisode. Sur cette saison 2, nous avons eu de nombreux invités qui ont enrichi leur pratique avec des médecines complémentaires, ce qui nous démontre que l'attrait pour ces manières différentes de pratiquer la médecine est grandissant. L'IMAOV propose des formations de grande qualité, exclusivement réservées aux vétérinaires, et ce depuis 25 ans. Une formation diplômante en ostéopathie qui prépare au DIE, Diplôme Inter-École Ostéopathie Vétérinaire, mais aussi en acupuncture et également bien sûr en physiothérapie et phytothérapie. Les sessions de formation se déroulent en région parisienne ou lyonnaise, en petits groupes, ce qui permet de consacrer 50% du temps à pratiquer. C'est important aussi de dire que vous pouvez bénéficier d'une prise en charge par l'organisme OPCO-EP ou d'autres organismes comme FIFPL ou France Travail par exemple. Si vous aussi vous avez envie de faire les choses autrement pour soulager l'animal et être dans la prévention, en complément de la médecine allopathique et du curatif bien sûr, je vous invite à consulter le site internet imaof.com où vous trouverez toutes les informations utiles. Merci à l'IMAOV de soutenir ce podcast. Et maintenant, place à l'invité.
Écoutez le monde vétérinaire autrement sur Veto Micro, un podcast produit par Themavet.
Bonjour, je suis Marine Slove, vétérinaire touche-à-tout, journaliste et fondatrice de Themavet.
Moi, je suis Sophie Hulford, vétote multicasquette, et je me suis fixée comme objectif l'amélioration du quotidien des vétérinaires.
Bienvenue sur la saison 2 du podcast qui donne la parole aux vétérinaires. Vous entendrez ici des consoeurs et des confrères, praticiens ou non, raconter leur parcours professionnel, avec leurs réussites, leurs joies, leurs difficultés et leurs échecs aussi parfois. En se confiant sur une tranche de leur existence et en interrogeant leur quotidien professionnel, ils nous démontrent qu'il y a mille façons d'être vétérinaire.
Nous avons voulu ici nous raconter tels que nous sommes vraiment. Parler de notre rapport au métier bien sûr, mais aussi et avant tout de notre rapport à la vie, à l'animal, à la planète. Ici, pas de tabou, pas de langue de bois, et surtout pas de culpabilité.
Vous êtes ici chez nous.
Mais surtout, vous êtes ici chez vous. Belle écoute!
Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'accueille mon premier invité 2024 sur Veto Micro, Paul Grosfillet. Bonjour Paul, bonne année.
Bonjour, bonne année à tout le monde.
Même si ton épisode sera vraisemblablement diffusé en février, il y a toujours un petit décalage. Paul, t'es tout jeune, t'es sorti de l'école de Nantes en 2022, tu es enchaîné avec une école de commerce, l'EM Lyon, où tu es actuellement en césure puisque tu termines le premier de tes deux stages. Alors pour résumer ton parcours, tu as grandi à la campagne, en région rennaise, tu as une passion pour les chevaux et l'équitation et initialement tu te destinais plutôt à être cavalier professionnel. Mais tes parents préfèrent une voie plus prestigieuse ou plus conventionnelle, je sais pas, tu nous expliqueras. Et tu t'orientes donc vers des études de vétérinaire équin. Et c'est vraiment à la toute fin d'école, en dernière année, que tu remets les choses en perspective et que tu te demandes si tu as vraiment envie que les chevaux soient « toute ta vie », entre guillemets, et que finalement tu te décides à explorer d'autres options. L'école de commerce te paraît alors être une voie qui ouvre de nombreuses portes. Tu entres donc à l'EM Lyon. Actuellement, tu termines un stage dans une banque d'affaires qui fait de la FUSAC, de la fusion-acquisition et de la restructuration de dettes pour des entreprises. C'est très éloigné du milieu vétérinaire, mais on verra qu'on peut raccrocher les wagons parce que cette banque d'affaires, tu l'as choisie parce qu'elle a attisé ta curiosité en réalisant une levée de fonds pour un groupe vétérinaire. Et on parlera aussi de voyage parce que c'est quelque chose qui te passionne et que ça prend un peu de place dans ton parcours. Alors sans plus attendre, la première question, comment tu en es arrivé à devenir vétérinaire? D'après ce que tu m'as écrit pour préparer cette interview, c'était pas forcément gagné.
Oui, effectivement, c'était pas forcément gagné d'avance. Au début, je voulais devenir plutôt cavalier parce que j'ai un peu grandi dans les chevaux. J'avais une famille qui montait à cheval. On avait des chevaux à la maison ainsi que plein d'autres animaux. Donc c'est vrai que j'ai grandi dans ce milieu un peu rural avec beaucoup d'animaux. Et je me posais un peu la question de quoi faire. Jusqu'au lycée, je savais pas forcément. J'étais pas forcément j'avais pas un métier précis en tête.
Oui, tu fais pas partie de ces vétérinaires qui depuis tout petit rêvaient d'être vétérinaire depuis l'enfance.
Non, pas vraiment. Je pense que c'est toujours resté un petit peu dans un coin de ma tête, mais j'ai toujours eu du mal à faire des choix et je voulais pas me fermer de porte. Et je pense que j'ai jamais été décidé à faire vétérinaire jusqu'au lycée où il fallait faire un choix, choisir une orientation. Et où là, en discutant un petit peu autour de moi, en discutant aussi avec un ami de ma mère qui me disait « Oh, je connais un vétérinaire, il monte à cheval entre midi et deux, et puis il passe sa vie avec les chevaux », je me suis dit « C'est peut-être une belle option qui permet de concilier à la fois ma passion pour l'équitation et aussi pour on va dire, le soin qui était très présent déjà dans ma famille. Mes deux parents sont dans le milieu médical. Ma mère a fait médecine et ensuite une école de commerce. Donc mon parcours vient pas de nulle part. Et puis, mon père était pareil dans la direction de clinique. D'accord. Donc, c'était quelque chose qui était assez présent. Et je me suis dit, au lieu de faire cavalier, qui est peut-être un métier, on va dire, un peu plus précaire, j'avais cette chance avec vétérinaire peut-être de pouvoir mêler chevaux, médical et puis un métier stable.
D'accord.
Donc voilà ce qui m'a mené au métier de vétérinaire.
Donc tu demandes une classe préparatoire.
Donc c'est ça, à la fin de mon lycée, je demande une classe préparatoire. Alors j'étais dans un lycée moyen parisien, j'étais plutôt bon élève, jamais très concentré mais avec plutôt des facilités. Donc j'ai eu la chance j'ai fait une demande pour des classes préparatoires. Je pense que j'ai eu les yeux un peu plus gros que le ventre. J'ai demandé des très bonnes prépas parisiennes et en province. Et j'ai été pris dans aucune prépa. J'étais en liste d'attente sur une seule des six prépas que j'avais demandé à Fénelon. Et jusque fin août, j'étais désespéré. Je n'avais pas de classe préparatoire. Et là, je me souviens, à la veille de la rentrée, à recevoir un coup de fil... pour m'annoncer que j'étais pris et que ma place, me proposer de prendre la place à Fénelon.
Donc là, le soulagement.
Donc très soulagé. Encore plus mes parents, je pense, qui me voyaient partir à la fac et qui savaient que je pense que j'étais pas un étudiant forcément très assidu, que j'avais sûrement besoin de quelqu'un derrière moi. Donc je pense qu'ils étaient beaucoup plus rassurés de me savoir en prépa que à la fac. Et c'était vraiment pour le coup de très bonnes années la prépa.
D'accord, donc ça c'est assez rare quand même, comme tu me l'as écrit en préparant cette interview. C'est quand même assez rare, même si bon, on a tendance à garder plutôt les bons souvenirs dans le passé, mais toi c'est encore assez frais, c'est encore assez récent, donc c'est d'autant plus rare. Qu'est-ce qui t'a plu dans la classe préparatoire ?
Évidemment, c'était pas gagné au début, parce que au début j'avais pas envie d'aller en classe préparatoire, j'en avais un peu peur, j'en avais entendu parler et... je pense que j'espérais beaucoup, j'avais même fait les démarches pour partir en Belgique, par tirage au sort. Et au final, j'ai pas forcément été particulièrement intégré au lycée. Et en fait, en classe préparatoire, je me suis retrouvé une seconde famille. Tant que ce soit au niveau des amis qu'on peut se faire et de la cohésion de groupe dans ma classe préparatoire, donc tant à Fénelon pendant mes deux premières années et à Châteaubriant en 5 demi. Vraiment des amis très proches et des profs vraiment à l'écoute. Et peut-être aussi. Je sais pas, un quotidien qui s'installait, qui était assez répété. Et puis, un vrai objectif. Je pense que c'était aussi quelque chose... je savais pourquoi je travaillais, je savais pourquoi je me levais le matin. Et ça m'a beaucoup plu, je pense, et ça m'a un peu rassuré. Donc, j'ai eu des années assez sereines. Et je pense que comme j'avais un petit peu de facilité, j'arrivais aussi à avoir un rythme raisonnable. Je me gardais du temps pour faire du sport, pour monter à cheval. Et je pense que c'est aussi ce qui m'a permis de tenir pendant 3 ans et pendant la 5 demi.
Oui, à la fois t'avais quand même tu arrivais à avoir un retour sur investissement et à travailler, mais tu pouvais aussi recharger tes batteries quoi. Alors qu'il y a des gens qui travaillent tellement que finalement ils ont plus cette opportunité de recharger des batteries.
Ouais, c'est exactement ça. J'avais un peu le temps de faire du sport, de me changer les idées, etc. Et donc, je pense que j'ai peut-être mieux tenu sur la longueur que quelques camarades. Alors après, j'avais pas forcément des résultats excellents à l'écrit. J'étais pas dans les têtes de classe, j'étais plutôt dans le dernier quart. Donc aux écrits, c'était souvent un peu compliqué, mais je me suis aussi découvert une facilité à l'oral. En colle, souvent, j'avais des meilleurs résultats qu'à l'écrit. Et ça s'est révélé la même chose au concours. Avec des très bons résultats aux oraux la première année, donc j'ai pas eu veto aux écrits. Mm-hmm. Les profs nous encourageaient quand même si on souhaitait faire 5 demi, à recommencer le concours, à faire les oraux. Et donc pendant ces oraux, je me suis rendu compte que j'avais quand même plutôt des facilités, donc c'est pour ça que j'ai fait le choix de recommencer. J'avais de très bons amis qui voulaient absolument recommencer à Fénelon parce que ils étaient de région parisienne et moi j'avais un petit peu envie de peut-être changer de cadre parce que je m'entendais peut-être un peu trop bien avec mes amis et que je faisais des fois peut-être un peu trop la fête.
D'accord.
Et je me suis dit je vais faire une demande pour faire 5 demi dans un autre endroit ailleurs pour un petit peu plus m'isoler et puis laisser la place à ceux qui avaient vraiment envie de rester en région parisienne. Bon, il se trouve que j'ai retrouvé d'autres très bons amis et que j'ai aussi bien profité étonnamment en prépa à Châteaubriant.
En 5 demi.
En 5 demi. Mais voilà, ça m'a permis aussi d'avoir peut-être une autre approche avec d'autres professeurs et puis donc de revoir le programme sous un autre angle. Et ça m'a peut-être aidé à avoir vétérinaire au final.
D'accord. Donc on en est au moment où tu intègres. Donc tu intègres l'école de Nantes. Et moi, il y a quelque chose qui m'a marqué dans la préparation de cette interview, parce qu'il y a quand même un fait important, c'est qu'à ton entrée en école vétérinaire, tu parles d'un burn-out qui va durer plus de 6 mois. Alors, est-ce que tu peux nous parler de cette intégration en école vétérinaire et puis de nous dire comment rétrospectivement tu analyses cette période?
Alors, je sais pas si justement j'intériorisais pas un peu tout ce qui se passait en prépa. Effectivement, à l'arrivée des résultats, comme tout le monde, j'étais très impatient. Et au moment de l'arrivée des résultats, j'étais en vacances avec une amie et je me rends compte qu'en fait, au moment où on m'annonce que je suis pris en véto, j'ai un peu un vide qui s'installe, un peu un blackout. Je me sens pas particulièrement heureux.
Oui, tu ressens pas de joie en fait.
J'ai plein d'amis qui pleuraient de joie et moi j'ai ressenti en fait du vide.
Oui, d'accord, ok.
Et au fur et à mesure du reste des vacances avant d'intégrer, le vide s'est un peu amplifié. Je sais pas, une angoisse qui s'est installée et je me suis un peu demandé ce qui se passait, presque à stresser parce que je stressais, enfin une espèce de boucle infernale.
Et t'en as parlé de cette absence d'émotions positives au moment de l'annonce des résultats ou tu t'es dit
J'en ai un petit peu parlé autour de moi et c'est aussi là que je me suis rendu compte que d'autres étudiants, quelques-uns, étaient dans le même cas que moi. Donc D'accord. Je me suis dit que c'était peut-être quelque chose qui pouvait arriver à d'autres personnes. Alors, est-ce que c'est un contre-coup de la prépa, le fait d'avoir un objectif en tête, de toujours penser qu'à ça, et puis au final, une fois l'objectif atteint, d'être un peu dans le vide.
Ouais, c'est marrant. Moi, je me souviens d'avoir ressenti une joie immense, personnellement. J'ai jamais entendu ça, mais c'est possible. Ce que tu dis, par contre, je l'ai entendu beaucoup. Ce que tu décris pour des résultats de collège européen. C'est une espèce de vide, et justement, même pas de soulagement, d'absence de d'émotion, du coup, quand les gens sont bordés. Mais je l'ai pas entendu pour le concours veto, mais c'est pas parce que je l'ai jamais entendu que ça n'existe pas, mais c'est intéressant.
Ok, je sais pas exactement, et donc ça a pris un petit peu de temps. Alors, j'arrivais quand même à m'intégrer, j'ai eu une chouette semaine d'intégration, l'école vétérinaire, pendant ces 6 mois, c'est bien passé, mais ça a perduré quand même pendant 5-6 mois. Et en fait, à l'issue de ces 5-6 mois, c'était un peu une promesse qui était faite entre mes parents et moi, que si jamais j'obtenais le concours vétérinaire, il m'offrait un cheval, ce qui était quand même un vrai objectif pour moi dans ma vie.
Ouais, un sacré cadeau, oui.
Et donc, une fois l'objectif atteint, j'ai réussi à négocier, entre guillemets, et à obtenir que mes parents me financent un cheval. Donc, c'était un vrai bonheur. Et le fait qu'il arrive, d'avoir de nouveaux objectifs, de devoir s'en occuper régulièrement, etc., je pense que ça m'a un petit peu sorti de ce stress ou ce
ça t'a sorti de cette espèce de burn-out, passage à vide. Oui, d'accord. OK, mais ça a quand même duré, tu as eu 6 mois un peu bizarre,
et d'accord. Donc je me dis que c'est bien de savoir que ça peut arriver et puis que ça passe. C'est rassurant de se dire que ça finit par partir et plus nous embêter. Et puis le fait d'avoir de nouveaux objectifs, de nouvelles choses en tête, je pense que ça aide beaucoup. Et voilà.
Après, c'est vrai qu'on parle de plus en plus d'un mal-être étudiant grandissant. D'ailleurs, pas du tout que chez les vétérinaires, c'est quelque chose qui est assez présent dans toutes les formes d'études, chez tous les étudiants. Est-ce que ça, c'est quelque chose que tu as pu ressentir pendant tes années à l'école?
Alors, j'ai pas particulièrement ressenti un grand mal-être parce que déjà, il y a une vraie camaraderie, que ce soit pendant ma prépa ou pendant l'école vétérinaire. Donc je pense qu'on a quand même fait beaucoup d'événements, on organise plein de choses, il y a beaucoup d'entraide. J'ai l'impression qu'il y a aussi beaucoup d'écoute, plus que dans les années de lycée. En tout cas, je me suis senti plus écouté, il y a eu plus d'échanges entre nous. Après, je pense que pour ce qui est du milieu vétérinaire, il peut y avoir notamment dans les dernières années cliniques une forte intensité de travail, une confrontation aussi à la réalité du métier qui nous attend.
Mais c'est souvent dans ces années-là que le mal-être étudiant s'installe.
Et là, effectivement, je pense que j'ai vu quand même plusieurs personnes autour de moi et j'y suis aussi passé pendant ma reconversion et pendant mon questionnement interne, des périodes où j'étais pas forcément bien parce que on a tellement investi, on a tellement donné pour devenir quelque chose ou devenir un objectif qui est pas forcément concret. Quand ça commence à se concrétiser, oui, effectivement, on peut se poser des questions, ça peut ne pas forcément être facile.
D'accord, ok. Qu'est-ce que t'en retiens de ces années d'école? Quelles sont les choses qui ont été le plus enthousiasmant pour toi avant qu'on aborde cette dernière année où finalement t'as eu un petit changement de cap?
J'ai beaucoup aimé déjà la vie étudiante. Je trouve qu'elle est très riche, elle est très dense et par rapport à l'école de commerce, je la trouve très familiale. C'est vraiment agréable de connaître toute l'école. Et le système d'intégration, en tout cas à Nantes, est vraiment bien fait. C'est très mélangé. Toutes les années, on refait l'intégration, on réintègre de nouvelles têtes. Et donc, à part cette année Covid, où peut-être qu'on a un peu moins connu les gens, c'est très agréable, en fait, de se sentir chez soi à l'école et de connaître tout le monde. Aussi beaucoup d'événements internes, tant professionnalisants que de plaisir ou de loisirs entre nous. Donc ça, j'ai trouvé ça vraiment chouette.
Tu t'es investi dans certaines associations, la VEF, je crois.
Oui, effectivement. Alors la première année et la deuxième année, je crois que j'ai fait à peu près toutes les associations possibles. Je faisais tous les sports possibles et toutes les activités que je pouvais. Et effectivement, je me suis investi à la VEF. Étant cavalier, je pensais qu'à faire de l'équine pendant ces années d'études.
Oui, tu te destinais vraiment à devenir vétérinaire équin.
Oui, effectivement, je pense que comme j'ai vraiment grandi dans ce milieu-là, je me suis dit que c'était la meilleure solution pour continuer à travailler avec les chevaux, pour être avec eux, pour connaître le monde et pour aussi éventuellement profiter des relations que j'ai pu éventuellement construire pendant mon adolescence, pendant ma vie entre guillemets aux écuries, de cavalier, etc. J'ai eu la chance de monter un petit peu à cheval tant en complet que dans les courses, que dans le loisir. Donc je me suis dit que c'était une belle manière de mettre à profit entre guillemets ces années-là aussi. Donc c'est pour ça que je pense que je me suis orienté vers le milieu équin. Et puis il y avait aussi cette attirance pour le côté pointu de la médecine qui était réalisée en médecine équine, qui me plaisait beaucoup.
D'accord. Tu parlais tout à l'heure de, à part l'année Covid, comment t'as vécu cette période Covid et qu'est-ce qui s'est passé pendant ces années-là à l'école vétérinaire?
Alors, c'était donc pendant ma troisième année. Je pense que j'ai eu beaucoup de chance, entre guillemets, par rapport à d'autres années, parce que on était dans la dernière année théorique. Donc à la fois, on connaissait déjà beaucoup de monde, j'avais beaucoup d'amis, de collègues, etc. Donc je me sentais pas particulièrement seul, contrairement aux premières années, qui connaissaient peut-être moins de monde.
Bien sûr, c'est très dur en première année d'arriver l'année Covid, ouais.
Et d'un autre côté, j'ai pas loupé les années pratiques, parce qu'il y a des quatrièmes années qui ont loupé 6 mois de pratique, et je pense que ça devait être difficile pour eux. Moi, je les ai plutôt très bien vécues, parce qu'on a une vie festive jusqu'au dernier jour, avant que l'école ne ferme. Alors au début, forcément, comme tout le monde, on comprend pas trop ce qui nous arrive. J'étais même plus dans de l'euphorie et l'excitation de la nouveauté que dans la peur particulière de la maladie ou de ce qui allait nous arriver. Et on a vécu en colocation, on a récupéré une colocataire et il y en a deux autres qui sont partis, donc on était trois.
Donc
on est resté dans à Nantes, comme on n'a pas de campus, on est beaucoup dans des colocations. Ouais. Et donc, on avait une maison assez sympa avec deux petits jardins à la campagne à Carquefou. Et c'était très sympa parce qu'en fait, il a fait beau pendant
tout le monde s'en souvient,
toute cette période de Covid. Donc on était, je me suis mis à faire du jardin, à travailler mes cours, à faire du sport tous les jours. Enfin, c'était finalement une période assez sereine finalement. Et puis qui s'est très bien passée avec les colocataires. Donc en plus, on se sentait pas trop seul. On cohabitait avec 4 lapins dans la colocation, ça faisait pas mal d'activités. Donc finalement, c'était une bonne période, pas forcément évidente pour assimiler tous les cours qu'il y avait à assimiler, parce que forcément un peu moins de motivation et de facilité à apprendre comme ça à distance.
Parce que vous aviez du coup les cours en dématérialisé, c'est ça ?
C'est ça, ouais. On avait tous les cours en dématérialisé, donc c'était le début des visios, donc ça marchait pas toujours comme il fallait, etc.
Oui, bien sûr.
Mais Ça a quand même plutôt bien fonctionné. On a les preneurs, donc nous aussi, on avait des gens à l'école qui prennent les cours et qui nous les écrivent.
Les Ronéo, alors vous appuyez les preneurs à Nantes, les Ronéo à Lyon, à Alfort.
L'équivalent. Donc qui nous envoyaient des polis et des fiches qui étaient super bien faites. Donc ça permet beaucoup de nous aider à apprendre. Et donc, on s'en est pas trop mal sorti. Après, forcément, c'était des partiels en ligne principalement. Des fois en visio, enfin les profs... trouver un peu des solutions aussi pour nous éviter de tricher, de bien apprendre nos cours, parce que évidemment c'est important, surtout pour les années qui suivent. Donc globalement, je pense que la plupart des gens ont joué le jeu et c'était Ça c'est bien fait, je pense. Ils s'en sont bien sortis parce que c'était pas évident de s'adapter comme ça à la dernière minute.
Oui, d'accord. Toi, t'en gardes pas du tout un souvenir traumatisant, en tout cas.
Non, plutôt positif, finalement.
Ok. Et alors, en dernière année, il y a un revirement, c'est-à-dire que tu vas réinterroger tes objectifs professionnels. Est-ce que tu peux nous expliquer comment et pourquoi ?
Alors, effectivement, jusqu'en quatrième année, les cliniques se sont bien passées. Je passe un petit peu dans toutes les différentes cliniques, comme tous les quatrièmes années. La partie équine se passe même plutôt bien, j'étais plutôt content et je me posais pas encore vraiment la question de après. Honnêtement, jusqu'au milieu de ma cinquième année, j'ai pas forcément posé la question de qu'est-ce que c'est le métier après, qu'est-ce que je
t'es dans la curiosité du présent, la découverte,
Exactement.
Etc. Oui.
Donc assez curieux, je découvre un petit peu tout et j'étais content en fait chaque semaine de changer, de découvrir une nouvelle chose. Et j'étais pas encore dans le fait de me projeter sur quoi faire ensuite, est-ce que je me spécialise ou pas. Alors forcément, j'avais plein de petites idées qui me passaient en tête, mais comme j'avais pas de choix à faire, je me suis pas forcément posé la question de ce que je deviendrais. Et j'ai un peu continué mon chemin. Et effectivement, en cinquième année, le début, donc on a pas mal de cours théoriques, donc ça se passe super, etc. Pas forcément non plus à me poser de questions. Et ensuite, je retourne faire des périodes de réserve dont on pourra parler après et de stages qui se passent très bien. Et vient ensuite, donc du coup, 6 semaines de stage dans un hôpital équin en Normandie. Et là, c'est 6 semaines de stage où il y a quand même beaucoup de travail. Et je pense que ça a un petit peu joué. On était peu de stagiaires et il y avait beaucoup de besoins. Il y avait des chirurgies la nuit. Il y avait je me rappelle, il y avait eu plusieurs autopsies, enfin, un contexte pas forcément simple qui a commencé à me poser question, on va dire, parce que je me suis dit, est-ce que j'ai envie de vivre à ce rythme-là ? Peut-être que mon cheval aussi me manquait à ce moment-là, parce que j'avais pas pu l'emmener de temps en temps quand je pouvais, je l'emmenais mon cheval là où je partais en stage. Là, étant donné le rythme et la quantité de travail, c'était compliqué, et puis j'avais pas forcément trouvé d'écurie à ce moment-là.
Pour autant, c'était un stage, donc un exemple.
C'est ça. C'était un seul exemple, mais je me suis posé la question et ça a commencé à me trotter dans la tête. Et à ce moment-là, j'ai commencé à demander à certains praticiens ils continuaient à monter à cheval, s'ils avaient une vie, entre guillemets, cavalière, et puis un peu à les questionner sur le reste de leur vie. Parce que ça me posait question et je me suis dit, je vais devoir faire un choix. Notamment, j'avais commencé à faire les démarches pour faire des demandes d'internat. Et ça me posait un petit peu la question de est-ce que leur vie me fait envie et est-ce que j'ai envie de faire tout ça, parce que ça m'intéressait, mais je commençais à être moins dans la découverte et plus dans le, on va dire, dans le, ce qui est normal, dans la répétition des actes, etc. Et je commençais à me dire je commence à ne plus découvrir de nouvelles choses et à devoir me projeter sur forcément.
Oui, là t'étais dans la projection de ta vie future.
C'est ça. Et là j'ai commencé à me poser un petit peu des questions. Et donc c'est comme ça que je me suis retrouvé à commencer à questionner un petit peu le sujet. Et ça s'est prolongé pendant les années, pendant la suite de l'année, pendant les périodes cliniques à l'école, où c'est pareil, on est un petit peu dans la répétition de certains actes. Et on va dire dans la, je devais pareil me projeter, je devais continuer à avancer sur mes projets d'internat. Et puis pareil, une certaine intensification du travail. On en a déjà un petit peu parlé dans, je crois que certains auditeurs ont déjà abordé le sujet, mais c'est vrai que on était peu de cinquième année équine, donc il y avait.
Oui, c'est vrai que ça dépend des années. Il y a des années où quand il y a peu de cinquième année équine, tout de suite il y a plus de travail à fournir.
C'est ça, oui, il y avait quand même une belle activité. Et qui, je pense, est assez en plus grandissante à Nantes, parce qu'on n'a pas beaucoup d'hôpitaux équins autour de l'école. Et puis voilà, une année où il y avait peu d'étudiants qui étaient intéressés par ce cursus-là. Et donc, forcément, c'est normal, il faut que le travail soit fait. Donc, je pense qu'il y avait une certaine intensité de travail qui m'a aussi posé question. Et je me suis dit, j'ai plus le temps. Et ce qui m'a fait aussi peur, plus forcément l'envie d'aller voir mon cheval quand j'avais du temps libre.
Oui, parce que moi, tu m'as écrit que tu as eu peur de faire une overdose de chevaux.
Effectivement, je pense que je suis assez curieux, je touche un petit peu à tous les sujets, et là, je mangeais, dormais et vivais chevaux. Autant la partie sportive et la partie équitation me manquaient, autant la partie soins m'intéressait, mais me passionnait pas autant que peut-être certains collègues vétérinaires, enfin des étudiants qui étaient dans la même promotion que moi ou dans les années suivantes, qui dès qu'il y avait un cas, se posaient énormément de questions, allaient chercher dans les bouquins, etc. Et ça m'intéressait, mais j'avais pas l'impression d'être autant absorbé entre guillemets par le diagnostic, par le suivi.
Oui, d'accord.
Ça.
En fait, tu t'aperçois que la démarche diagnostique intellectuelle t'intéresse, mais pas outre mesure, et que finalement, c'est presque le milieu qui t'intéressait plus, et que par ailleurs, t'as une curiosité intellectuelle qui fait que là, toi, t'as peut-être besoin de plus de diversité.
Oui, exactement. Je pense qu'il y a un peu de ça. Et puis, bah, forcément, je commence à aussi ouvrir un peu mes oreilles, regarder autour de moi et me projeter éventuellement dans d'autres endroits. Alors, j'avais fait des démarches pour aller à Saint-Hyacinthe. J'avais fait des démarches pour certains internats. Donc, j'avais quand même ces possibilités-là, mais je voulais quand même m'ouvrir potentiellement à d'autres sujets. C'est là que j'ai commencé aussi à me discuter un petit peu autour de moi et à oser, entre guillemets, en parler aussi, parce que c'est pas évident. Je m'étais tellement impliqué dans le milieu équestre. J'avais fait tous mes stages en équine. J'en avais aussi parlé dans ma famille, à mes proches. Donc, en fait, tout le monde m'attendait comme leur futur vétérinaire équin qui allait les aider. Et ça a été aussi difficile d'en parler et de se dire, bah en fait, mon futur, il m'appartient et il appartient pas forcément à mon entourage. Et puis finalement, ils ont tous compris, entre guillemets, ce choix un petit peu de changement d'orientation. Et certains l'ont pas compris tout de suite, mais c'est venu après. Et...
Oui, il y a une petite étape où t'as dû t'affirmer et déjà accepter toi-même et ensuite faire valoir ce choix-là.
Effectivement, c'est pas forcément très simple, je pense, ce changement d'orientation. Je pense que ce soit toi, n'importe quel vétérinaire,
n'importe quelle
personne qui change un peu d'orientation,
tout
forcément l'entourage se demande ce qui arrive.
On est beaucoup à être passé par là. Et alors, comment tu en arrives à te dire je vais faire une école de commerce?
Alors, bah forcément, comme je le disais au début, j'ai été un petit peu influencé par ma mère, qui est passée à peu près par le même chemin que moi il y a quelques années. Parce qu'elle a fait médecine et à l'issue de son école de médecine en dernière année, elle se rend compte que je crois qu'elle était en psychiatrie et en dermatologie, et elle se rend compte que c'est des spécialités qui l'intéressent pas. C'est là qu'elle se met à faire santé publique et à coupler santé publique avec une école de commerce.
D'accord.
Et donc bah forcément, j'ai abordé le sujet avec elle, j'en ai un petit peu parlé éventuellement de mes projets, j'ai envisagé tout, éventuellement la recherche, vu que je faisais une thèse en recherche en phytothérapie, je me suis dit ça pouvait être un sujet qui pouvait m'intéresser, j'avais envisagé plein d'autres potentiels métiers entre guillemets qui pouvaient être connexes à vétérinaire, notamment inspirés par certains précédents podcasts ou certains échanges.
Je suis ravie que Vétomicro serve à ça aussi.
Et puis forcément, en discutant avec mon entourage, je me suis rendu compte que l'école de commerce, c'était peut-être l'option qui m'ouvrirait le plus de portes. Ça a vraiment l'avantage d'être très généraliste.
Oui.
Et donc de m'ouvrir, entre guillemets, toutes les portes. Et comme j'ai beaucoup de mal à choisir, je me suis dit que c'était une option. Donc j'ai engagé un petit peu les recherches et puis les démarches pour pouvoir s'inscrire en école de commerce. Donc il faut passer un test d'anglais que
D'accord.
je me souviens avoir passé un lendemain de nuit de garde, parce que pareil, il fallait caler ça dans l'emploi
Bien
du
sûr.
Temps et dans le travail, donc c'était pas forcément évident.
Donc, pendant ta cinquième année du coup.
Donc ouais. Pendant ma cinquième année, alors les profs, j'ai pu avoir des échanges avec aussi mes professeurs pour leur expliquer mon questionnement, etc.
Parce que c'est pas non plus rarissime, on est d'accord.
Non, je pense qu'ils ont été plutôt à l'écoute. Je pense qu'il y a eu au début un peu d'incompréhension, peut-être parce que ma motivation a un peu changé, et comme j'étais quelqu'un de très motivé avant et qui s'est posé des questions, forcément au début il y a forcément eu un questionnement. J'ai une prof qui a pris le temps d'échanger avec moi, etc. Donc ça m'a pas mal aidé aussi pour me dire c'est aussi normal de se poser des questions et de se projeter éventuellement à d'autres endroits. Et puis voilà, ils m'ont aussi permis de m'absenter pour faire ces étapes là, donc ça c'est quand même assez chouette. Et donc j'ai préparé ce test d'anglais et aussi préparé ce qu'on appelle le TAJMAJ, donc qui est un test un petit peu qui ressemble un peu à un test, je dirais, de QI. Enfin, c'est un test un peu spécifique que souvent les étudiants préparent pendant un certain temps avant de le passer. Donc j'ai eu un score qui m'a permis d'avoir une école, mais qui n'était pas non plus très préparé, on va dire. Et donc, à l'issue de ces deux tests-là, j'ai été pris pour avec mon dossier. Forcément, le fait d'être vétérinaire, la note de dossier était assez haute parce qu'ils ont très peu de gens de ce milieu-là. et que je pense que l'image du vétérinaire, oui, quoi qu'on en dise, est plutôt très très bonne. Donc
puis ça leur permet peut-être d'avoir une forme de diversité aussi dans les profils qu'ils intègrent.
Exactement, c'est vrai qu'ils ont beaucoup de pharmaciens qui font des doubles diplômes. Ils ont peut-être des gens du milieu médical, mais en tout cas des vétérinaires, je crois que ils en ont pratiquement jamais. J'ai eu la chance quand même de discuter avec quelques étudiants qui, avant moi aussi, m'ont conforté dans ce choix-là, qui eux aussi avaient fait une école de commerce à l'issue de leur cinquième année ou un peu plus tard, souvent par le MBA qui est souvent pratiqué. Mais donc là, c'était vraiment une admission sur titre. J'avais quand même discuté avec un ou deux étudiants qui, à 4-5 ans, avaient fait ce cursus-là. Donc ça m'avait pas mal rassuré aussi de voir que c'était possible. Et donc voilà, me voilà aux oraux à essayer de présenter mon projet et à proposer quelque chose aux écoles de commerce. Donc je passe les oraux dans l'école de Nantes et dans l'école de Lyon. Après, le timing était tellement serré parce que je me suis mis à postuler tellement tardivement que j'ai dû sélectionner entre guillemets les écoles et j'ai finalement choisi de partir à Lyon. Pour le réseau qu'il offrait, pour la bonne intégration aussi des admissions sur titre, parce que pour le coup on est très mélangé avec les étudiants de prépa, donc il y a un peu tous les âges, tous les profils, et que ce soit dans la...
Donc ce que tu appelles admission sur titre, ce sont les parcours qui arrivent après une première partie d'études.
Exactement, il faut avoir déjà un
diplôme.
C'est
en
ça,
fait.
Il faut avoir validé une licence, et je crois qu'il faut même une première année de master pour pouvoir intégrer l'EM Lyon à ce niveau-là. Et donc, on intègre pour deux années de master l'EM Lyon.
D'accord.
Et donc, voilà, je crois que toutes les écoles de commerce font un peu ce système-là. Et disons que la place de ces étudiants-là est assez variable selon les écoles de commerce.
Ok. Et donc, tu intègres l'EM Lyon quand ?
Donc, en septembre 2022.
D'accord.
Donc, à l'issue de ma cinquième année.
À l'issue de ta cinquième année.
Donc, je passe ma thèse En fait, j'avais prévu de passer ma thèse rapidement, étant donné que j'avais postulé pour pas mal d'internats qui demandaient de la passer rapidement. J'ai passé ça dans l'été, et ensuite j'ai repris directement à la rentrée d'après, sans perdre de temps, les études à l'EM Lyon. J'avais aussi envisagé éventuellement de pratiquer pendant quelques années et de retourner aux études peut-être plus tard. Et après, je me suis dit que le fait d'être déjà dans les études, autant entre guillemets y rester. Honnêtement, ça ne me déplaisait pas non plus, que ce soit la vie étudiante, le fait d'apprendre de nouvelles choses aussi en permanence me plaisait beaucoup, donc je pense que...
Moi, je crois qu'il n'y a pas de règle dans la matière, c'est très personnel.
C'est ça, je me suis dit tant qu'à faire, j'essaye maintenant, et puis si ça ne le fait pas, pourquoi pas faire aussi un peu de pratique, je m'excluais pas la possibilité d'en faire et puis ensuite d'y revenir.
Alors, qu'est-ce que tu découvres à l'EM Lyon ? Est-ce que c'est conforme à ce que tu attendais de ces études complémentaires ?
Alors c'est effectivement très généraliste. On rentre dans un cursus qui est quand même très varié, avec autant de la comptabilité, des RH, du management, maintenant beaucoup de cours sur la gestion responsable des entreprises, sur un peu le développement durable de que ce soit des entreprises. Alors c'est très généraliste. Donc ça permet de toucher à tous les sujets et souvent ça va être beaucoup des travaux de groupe, des projets à mener. Et donc, on peut un petit peu aussi orienter et choisir nos sujets. Par exemple, on avait un cours de création d'entreprise. Et l'idée, c'était pendant 6 mois donc de proposer une entreprise, de la créer par un groupe de 6, et ensuite de la pitcher devant des profs qui sont aussi des investisseurs en start-up. Donc, c'est un exercice finalement qui est très pratique, très intéressant. Alors, je me souviens, j'avais embarqué mes camarades dans le projet de création d'une plateforme de téléconsultation vétérinaire. Et c'était assez sympa, ils nous avaient poussé à aller interroger des vétérinaires sur le terrain, à vraiment questionner la faisabilité du projet, à aller regarder tout ce qui se faisait en termes de loi, en termes de faisabilité économique. Enfin, c'était hyper intéressant. Enfin voilà, c'est ce type de cours.
Oui, il y a
qu'on
une
avait.
Mise en pratique en fait. Il y a des cours théoriques, mais
c'est ça,
on sort un petit peu du purement théorique.
Ouais, effectivement, on sort du théorique et on sent qu'il y a une vraie volonté de mettre en pratique les choses. Mmh. Et les cours sont très, on va dire, collaboratifs. La grande majorité des professeurs sont des professionnels.
Ce que tu veux dire, c'est que ce sont des gens qui sont dans la vraie vie et qui du coup sont sortis des écoles et ont une vraie expérience de terrain, quoi.
C'est ça, et qui continuent d'avoir une expérience de terrain. Donc on a vraiment des données de terrain, et ça c'est assez important. Enfin, je trouve que c'est assez intéressant. ça aide vachement à nous développer et ils nous encouragent vachement à énormément à développer des idées, des projets. Ils nous soutiennent en cas de volonté de créer notre propre entreprise, donc ça c'est des choses qui sont assez chouettes. Et on a aussi du coup le fait de développer un réseau, que ce soit tant pendant la période on va dire étudiante et pendant le tous les événements qui peuvent se faire, pendant les événements associatifs. C'est vrai que la vie étudiante est très différente entre vétérinaire et école de commerce.
Et ça tient à quoi?
Je pense que ça tient beaucoup au budget. Il y a énormément
y a plus de budget.
Il y a énormément de sponsors, beaucoup de soutien financier. Donc c'est vrai que il y a beaucoup plus d'événements. Je crois qu'il y a plus d'un événement par jour à l'EM Lyon. Donc ça peut être
Il y a combien d'étudiants à l'EM Lyon?
Je dirais 1000-1200 étudiants.
D'accord,
en
ouais,
tout, on est 400-450 je dirais dans la promo à peu près. Et donc oui, effectivement, on est quand même très nombreux. Et puis le campus se prête vachement que ce soit aux événements festifs, il y a 35 associations, quelque chose comme ça. Donc il y a des associations pour tous les goûts et chaque association organise que ce soit des soirées à thème en appartement, des soirées en ville, des événements collaboratifs, des événements professionnalisants. Donc c'est vrai que par rapport au côté vétérinaire qui on va dire est beaucoup plus famille et beaucoup plus fait main. On a, mais qui aussi a son côté très sympa et qui m'a peut-être aussi un petit peu manqué, le côté famille. Il faut vraiment rentrer dans une association, ce que j'ai fini par faire pour, on va dire, retrouver un petit peu ce groupe et ce côté famille. Il y a ce côté, on va dire, plus extraordinaire, entre guillemets, à l'EM Lyon. Je me souviens du week-end d'intégration. C'était 3 jours dans un énorme camping avec 8 piscines et avec un concert de Feder à la fin du week-end, quoi. Donc c'est vrai que c'est ouais, autre chose.
Les systèmes de financement sont pas exactement.
Voilà, mais c'est aussi très sympa. Ça c'est un autre milieu et on passe du tout au tout, mais les deux sont très sympas à vivre.
Et le coût d'une année?
Alors effectivement, il faut y penser aussi.
Ouais.
À l'EM Lyon, on est aux alentours de 18 000 euros l'année, sachant qu'il y a 2 ans à financer, donc ça fait quand même 36 000 euros à investir. Alors comme beaucoup d'étudiants, j'ai fait un emprunt étudiant. Ouais. Les banques, entre guillemets, prêtent pratiquement à taux zéro et soutiennent beaucoup cela, mais il faut pas oublier que c'est quelque chose qu'il faut ensuite rembourser.
Ouais. Et donc, on est d'accord que c'est à peu près les mêmes tarifs qu'HEC, c'est à peu près aligné. Hein, oui.
Ouais, j'ai l'impression que toutes les écoles sont à peu près similaires en termes de prix. Et c'est vrai qu'il faut pas oublier que, ensuite, il va falloir travailler pour rembourser tout ça. Ce qui met une certaine pression aussi dans la sortie de l'école, de trouver rapidement un travail et puis un travail aussi qui est rémunérateur. Donc, des fois, on peut aussi être poussé à faire un choix dans le métier par rapport à ça. Et ça, c'est pas forcément évident. Donc, c'est vrai que c'est assez sélectif. Je crois qu'ils font quand même beaucoup d'efforts sur les étudiants boursiers et les étudiants qui ont besoin d'aide pour ou réduire les frais ou les soutenir financièrement pendant cette période-là.
Du moins, c'est une donnée qu'il faut avoir en tête, quoi.
Mais voilà, c'est sûr que pour se lancer là-dedans, il faut quand même se dire, voilà, je m'engage aussi à une certaine somme d'argent, à payer une certaine somme d'argent et à devoir la rembourser ensuite.
Donc, en ce moment, t'es en césure. Donc ça, c'est un choix. Pourquoi tu fais ce choix de la césure?
Alors, comme je le disais, j'ai un petit peu de mal à choisir et à m'orienter. Je pense que je me posais encore pas mal de questions à l'issue de ma première année, qui est finalement très généraliste, donc qui nous ouvre à tous les possibles. Et même si j'ai une vraie volonté de retourner travailler dans le secteur vétérinaire, parce que c'est un milieu qui me plaît beaucoup, donc peut-être différemment de la clinique, mais d'une autre manière. Je voulais quand même m'ouvrir tous les possibles et aussi me former peut-être dans une structure un peu plus généraliste. Donc, je me suis un petit peu posé la question. J'ai un peu discuté avec tous les étudiants autour de moi. Ils m'ont tous conseillé, entre guillemets, de partir dans un secteur plus généraliste et puis surtout plutôt dans la finance qui ouvre, entre guillemets, plus de portes. Donc, j'ai commencé un petit peu à me questionner, à discuter aussi avec... quelques vétérinaires, j'ai eu la chance en fait d'avoir pas mal de gens qui ont répondu à mes sollicitations et qui m'ont dit que me former en finance, c'était quelque chose qui pourrait beaucoup m'aider, que ce soit ensuite dans la gestion d'établissements vétérinaires, dans la direction. Ils m'ont dit que c'était la chose qui était peut-être la plus difficile à improviser entre guillemets quand on ouais. gère une structure. Et donc c'est pour ça que j'ai commencé à chercher un petit peu tous les milieux de la finance, en audit, en transaction service. Et aussi du coup en fusion acquisition, même si à ce moment-là, j'y croyais pas vraiment, je me suis dit j'ai un profil trop atypique et trop éloigné pour être pris dans ce secteur-là qui est souvent assez élitiste et qui demande souvent d'avoir fait plusieurs stages en finance avant. Mm-hmm. Et en fait, j'ai la chance d'intégrer donc cette banque d'affaires qui s'appelle Clearwater International, donc qui est une banque d'affaires qui est à Paris, qui a aussi un petit peu des antennes partout en Europe. Et donc cette banque d'affaires, elle a réalisé donc une levée de fonds pour un groupe vétérinaire, et je me suis dit tiens, en fait il y a moyen entre guillemets de travailler dans un milieu généraliste tout en travaillant avec une banque d'affaires qui a déjà entre guillemets travaillé dans ce secteur-là et donc qui pourrait m'ouvrir certaines portes. Mm-hmm. Je commence à me renseigner sur le sujet, j'en discute aussi forcément avec les gens autour de moi qui me disent que c'est une belle opportunité et que si je suis pris aux entretiens, il faut en profiter. Donc je me prépare autant que possible aux entretiens en essayant de rattraper le retard sur toutes les connaissances, on va dire théoriques, d'un point de vue financier pour pouvoir passer ces entretiens qui se font en plusieurs étapes. C'est vrai que j'avais l'habitude des stages vétérinaires où on passait un coup de fil au veto et pas de problème, on se tape la main et le stage débute.
Tu potasses le MNE.
Et là, je me rends compte qu'il faut potasser le MNE, être en compétition avec 1000 ou 1500 étudiants qui veulent tous la place, devoir réseauter, envoyer des messages aux gens qui sont dans l'entreprise pour pouvoir la connaître, et puis essayer de refaire son CV pour la 150e fois pour qu'il soit le plus optimal possible. Ça, je trouve que c'était pas forcément évident avec mes expériences qui étaient tout à fait atypiques pour le secteur. Et finalement, j'ai quand même pu jouer, entre guillemets, je pense, sur cette différence pendant les entretiens, en proposant mon projet qui est de mêler finance et milieu vétérinaire, qui semblait tout à fait logique pour eux parce que le secteur financier à ce moment-là était vraiment en effervescence, notamment pour le secteur vétérinaire, parce qu'il y a eu plusieurs investissements de fonds de private equity dans le milieu vétérinaire récent et qui ont été de grandes dimensions et de grande envergure, notamment dans un moment où les investissements étaient peu importants et un peu au ralenti. Donc effectivement, eux, ils voyaient le secteur vétérinaire et aussi le secteur de la radiologie ou des laboratoires comme des nouveaux secteurs à conquérir. Donc ça, forcément, quand on est vétérinaire, ça peut poser question. Mais pour eux, dans leur milieu strictement financier, ils se sont dit pourquoi pas, en fait, avoir quelqu'un qui connaît un petit peu le secteur, peut-être que ça peut être intéressant. Et donc me voilà à passer les entretiens, à les obtenir et puis à rentrer en stage à Clearwater début juillet. Et donc voilà, je me retrouve en banque d'affaires. Donc je suis passé en l'espace d'un an de mes petites sessions de prophylaxie bovine derrière les vaches, de mes sessions en clinique à soigner les chevaux, à derrière un bureau en haut des Champs-Élysées. À traiter des tableurs Excel et réaliser des présentations pour des investisseurs. Donc c'est vrai que
mais c'est ça qui est notable, et c'est marrant, ça me fait penser à j'étais à la VAC récemment, j'ai fait pas mal des conférences socio-professionnelles qui étaient organisées, il y avait le directeur de l'UNVA Christophe Degers qui a fait une rapide intervention et qui a dit quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Il a dit que oui, il y avait effectivement une pénurie de vétérinaires praticiens et qu'il y avait beaucoup de vétérinaires qui faisaient beaucoup de choses différentes, parce que des vétérinaires, on en retrouve partout, y compris dans la finance. Et il a dit que la valeur d'un diplôme se mesurait à sa capacité à essaimer, et que par ça, le diplôme de vétérinaire avait une grande valeur. Et en fait, tu te démontres ici, c'est qu'en fait, en un an, tu es capable de passer de faire de la prophylaxie à travailler pour une banque d'affaires. Et je pense que c'est une vraie valeur et qu'il a parfaitement raison quand il dit ça. En tout cas, c'est quelque chose qui m'a marqué et dont tu es un parfait exemple. Et donc, plein de nos confrères et nos consoeurs sont un exemple. Et c'est vrai que ça fait la valeur de notre diplôme. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose dans notre sélection, probablement, là, de tout ce qu'on apprend, notre capacité à apprendre, qui fait qu'on est capable de faire ça, on est capable d'apprendre. Tu te dis, t'as préparé cet entretien, c'est-à-dire tu t'aperçois que tu veux faire ce stage dans cette banque d'affaires. Tu n'y connais rien au M&A, à la fusion acquisition, mais n'empêche que tu te débrouilles pour passer ces entretiens et apprendre. Et ça, c'est une vraie valeur. Et c'est une valeur qui, en tout cas, c'est quelque chose qu'on nous apprend à l'école vétérinaire. Je ne sais pas exactement comment, mais en tout cas, on est beaucoup à être capable de faire ça. Et c'est quelque chose de très notable.
Oui, c'est vrai qu'on apprend vraiment à être adaptable.
Oui, et à apprendre.
Et à apprendre et à passer dans tous les milieux. Et donc, voilà. Donc, moi, voilà, donc dans ce stage de M&A à Clearwater. Et donc, bah, ici, j'ai beaucoup appris, notamment, bah, sur la production de documents, sur le fonctionnement, on va dire, du milieu professionnel. Parce que finalement, quand on est vétérinaire et que on grandit dans ce milieu-là, on n'a pas forcément beaucoup de recul sur qu'est-ce qu'une entreprise, comment elle fonctionne, quels sont les différents échelons de la hiérarchie, comment fonctionne un pôle RH, comment on gère le management, etc. Et ça, c'est des choses que l'avantage du MLA nous apprend, parce qu'on est, en fait, on va réaliser donc la plupart du temps donc la fusion de deux entreprises, donc soit d'une entreprise qui veut se vendre et on va l'accompagner pour qu'elle se fasse racheter, ou à l'inverse une entreprise qui cherche à acquérir de nouvelles entreprises. Et donc en fait, on va accompagner cette fusion sur tous les plans, tant financiers, juridiques, sociaux. Donc un peu tous ces sujets-là, et ça permet vraiment d'apprendre tous les sujets. On est régulièrement en échange avec les directeurs de ces entreprises-là, avec des entreprises qui peuvent avoir une certaine dimension. Il y a certains deals où dans mon stage le chiffre d'affaires a touché les 250 millions d'euros. Donc on est quand même sur des grosses entreprises qui ont un fonctionnement qui me paraissait impressionnant, surtout quand on compare ça à l'échelle d'une petite entreprise ou par exemple d'une petite clinique vétérinaire. Et je pense que ça permet de comprendre un petit peu comment se font les échanges, comment se font l'organisation du travail, etc. Et donc j'ai beaucoup appris pendant ce stage à ce sujet-là. Et puis ça permet aussi, entre guillemets, de bâtir un certain réseau. Que ce soit au travers donc des collègues, des autres stagiaires qui vont avec qui on a travaillé en collaboration et qui vont potentiellement ensuite soit rester dans cette entreprise là, soit travailler dans d'autres entreprises. Donc je pense que c'est des gens avec qui on peut rester en contact. Et puis ça m'a aussi permis d'obtenir mon futur stage. Qui va me permettre déjà de renouer entre le milieu vétérinaire et le milieu de la finance.
Oui, alors c'est ma question d'après, mais avant ça, j'ai une question qui me vient. On parle souvent d'une jeune génération en quête de sens qui remet plutôt en question l'ultra-capitalisme, alors notamment au travers du prisme de l'écologie, du prisme du travail, alors même s'il faut se méfier des grandes généralités générationnelles. Et là, tu fais le grand écart entre finalement le secteur du soin, dont tu dis même que familialement, t'en es plutôt issu, donc la grande famille du care, et le secteur de la finance. Sur ce plan du sens, est-ce que toi, tu y trouves ton compte? Qu'est-ce que tu y découvres? Est-ce que ça soulève chez toi des interrogations?
Ah, effectivement, ça soulève quelques interrogations. C'est pas évident. Honnêtement, pour le moment, je me place plutôt en tant qu'observateur.
Oui, je me doute.
C'est-à-dire que pour le moment, je préfère regarder, constater, entre guillemets, on va dire les impacts positifs et négatifs que peuvent avoir la financiarisation d'un milieu ou des investissements, etc. C'est vrai que j'ai pu à certains moments, que ce soit au travers d'échanges, au travers de discussions, au travers d'entretiens, me rendre compte que des fois il y a un certain détachement des professionnels de la finance vis-à-vis du soin. Ils ne se rendent pas forcément compte que chercher une rentabilité et permettre un certain bien-être des patients et des vétérinaires et des professionnels qui travaillent dans ce milieu-là, des fois l'équilibre n'est pas forcément placé au même endroit, mais pour le moment, on va dire que je suis plutôt en observateur. Et je sens bien qu'il n'y a pas non plus une volonté mauvaise des personnes qui sont dans le milieu financier, qui est simplement la rentabilité. Il y a quand même une certaine réflexion et je pense que eux se posent quand même de plus en plus la question. Et que ce soit tant sur le plan social que le plan écologique ou le plan RH, management, etc. Il y a quand même une vraie question qui, j'ai l'impression, se pose de plus en plus dans ce milieu-là, et le fait de le constater de l'intérieur, c'était intéressant. Après, à voir évidemment comment ça va évoluer dans les années à venir. Forcément, j'en ai un petit peu aussi discuté en famille parce que le milieu de la médecine humaine a suivi un petit peu le même développement que la médecine vétérinaire.
Avec pas mal d'avance.
20, 30 ans de ça. Donc, exactement au moment où ma mère est rentrée dans le même secteur et a constaté aussi ce sujet-là. Et ça a aussi apporté son lot de choses positives. Il y a aussi certaines choses qui sont peut-être moins bien passées à certains endroits, mais du coup, le fait d'en avoir conscience, en tout cas, j'ai envie en tant que double casquette, on va dire, d'apporter mes connaissances et peut-être éventuellement, mon soutien aux vétérinaires qui pourraient faire face à certains problèmes suite à la financiarisation de leur clinique ou le développement des groupements vétérinaires. Je sais que c'est un sujet qui est très discuté dans la profession et à juste titre. Je pense qu'il faut permettre toutes les possibilités de pratique et tous les systèmes. Et en tout cas, moi, j'espère pouvoir avoir la connaissance pour défendre tous ces systèmes-là et apporter mon regard de vétérinaire dans ce milieu-là. Parce que je me rends compte que beaucoup de structures sont très divisées. On va avoir le côté exécutif et financier d'un côté où il y a peu ou pas de connaissances du milieu vétérinaire. Enfin, en tout cas, pas de gens qui viennent de ce secteur-là.
Et l'inverse, qui est vrai aussi.
Et l'inverse, des vétérinaires qui...
Et une étanchéité entre les deux.
Oui, c'est ça. Et donc, j'espère pouvoir, entre guillemets, un peu mêler les deux et permettre ça. Je sais pas si ce sera possible... De ma modeste personne.
Tu fais plutôt partie de la team. Je préfère comprendre exactement comment les choses fonctionnent de l'intérieur pour pouvoir faire évoluer les choses que des gens qui, je dis ça sans aucun jugement parce qu'il y a deux types de personnes qui se mettent en retrait d'un système qu'ils jugent trop délétère, par exemple.
En tout cas, oui, j'ai envie de comprendre le système, de me faire ma propre opinion. Pour le moment, je suis encore dans la découverte et après pouvoir éventuellement agir et mêler les deux milieux. Si c'est de la meilleure manière possible.
Ok, très clair. Alors, tu commençais à parler de ton deuxième stage de césure. Tu comptes le faire dans quoi ?
Alors, en fait, au cours de mon stage, eu la chance de faire plusieurs entretiens dans des boîtes vétérinaires qui ont en fait aussi des postes d'analyste M&A. Donc, en fait, c'est un petit peu le même système, le même métier que ce que je faisais en banque d'affaires. Sauf qu'ici, l'idée, c'est de les aider à acquérir de nouvelles cliniques et essayer de comprendre comment fonctionnent ces cliniques et évaluer le prix, entre guillemets, que pourrait rapporter et que pourrait coûter la clinique au groupement et de voir dans quelle manière c'est possible de l'optimiser dans le fonctionnement, etc. Et je me suis dit que c'était une place assez intéressante et centrale qui me permettrait vraiment de comprendre comment fonctionne une entreprise vétérinaire et d'avoir une vue, on va dire, d'avion et globale d'une entreprise vétérinaire. Donc je vais faire mon prochain stage dans un groupe pour essayer un peu de comprendre tout ça. Et l'objectif, c'est de... une fois de plus d'apprendre et de comprendre le fonctionnement et puis après de voir entre guillemets si c'est quelque chose que je veux continuer de poursuivre ou si je souhaite peut-être m'orienter plus dans le management ou dans la direction ou plus du côté RH, je sais pas. En tout cas, pour le moment, je suis encore dans une phase de découverte, mais je me dis que c'est une bonne opportunité pour un peu avoir accès à tous les sujets.
D'accord, ok. Tout à l'heure, on a dit qu'on y reviendrait, alors je refais un petit bond en arrière, mais t'as dit que t'étais réserviste, et je crois que tu l'es toujours aujourd'hui, donc tu cumules plusieurs casquettes. Est-ce que tu veux nous en dire un peu plus sur cette partie-là ?
Alors effectivement, à l'issue de ma deuxième année, à cette époque-là, donc j'étais très axé sur les stages équins, et on devait faire un stage en non-libéral. À l'époque, ça pouvait être un peu tout et n'importe quoi. Et comme moi, j'étais quand même plutôt branché chevaux et clinique à ce moment-là et que j'avais pas particulièrement envie de m'orienter vers un laboratoire ou un abattoir ou ce genre de choses.
Ah, c'est plus obligatoire le stage DDPP abattoir
Je pense que c'est redevenu obligatoire. D'accord. Mais on a été dans une période où l'intitulé était simplement non libéral.
D'accord, ok. Nous, c'était effectivement deuxième année obligatoire.
Et donc, me voilà à chercher un stage en non-libéral. Et en fait, Quand j'étais à Paris, je montais à cheval à l'école militaire de Paris, qui est encore un centre équestre au pied de la Tour Eiffel, donc qui est très sympa, mais qui est un centre équestre militaire, donc qui est ouvert aussi aux personnes qui sont non militaires. Et donc j'avais la chance de me retrouver là-bas et à monter pendant 5 ans à cheval là-bas. Et donc j'avais demandé au colonel qui gérait la section s'il était possible de faire un stage chez leur vétérinaire, parce que j'avais vu qu'il y avait un petit pôle vétérinaire juste à côté. Et il m'explique qu'en fait le vétérinaire qui s'occupe des chevaux, il est pas sur place, il est à Fontainebleau. Il me donne les contacts et me voilà à Fontainebleau pour faire mon stage de non libéral, donc finalement en clinique avec les chevaux, donc exactement ce que je voulais faire. Et dans un contexte militaire, donc on est sur la base militaire de Fontainebleau, à l'école militaire d'équitation de Fontainebleau, où en fait il y a toute une antenne vétérinaire avec tout ce qu'il faut, salle de consultation, salle de chirurgie, entre 200 et 250 chevaux dans les écuries à l'école militaire d'équitation de Fontainebleau, avec des super beaux bâtiments qui datent d'époque. Et puis en fait c'est l'endroit à Fontainebleau où ils forment tous les chevaux militaires, donc où ils sont achetés à 3-4 ans, où ils sont formés et où ensuite où ils sont redispatchés dans les différentes sections et caisses militaires. Donc il y a à peu près en tout je dirais 1000 chevaux en France qui sont des chevaux militaires et qui servent à la formation des familles militaires, qui servent au rayonnement des sports et caisses militaires, et qui peuvent servir aussi à donner des cours à certains civils qui peuvent avoir la chance d'en profiter. Donc c'est dans la volonté de conservation du patrimoine et de promouvoir le sport qu'il y a encore tous ces chevaux-là. Et donc il faut bien un vétérinaire pour les soigner. Et donc me voilà donc en stage à Fontainebleau. Et au cours de ce stage, j'étais donc avec donc différents vétérinaires donc qui sont tous militaires de profession. Forcément avec chacun un grade associé, avec certains niveaux de responsabilité. Mais finalement le fonctionnement quotidien ne diffère pas beaucoup d'une clinique vétérinaire classique, à part qu'il y a un vrai avantage dans le sens où il n'y a pas de clients, comme tous les chevaux appartiennent à l'armée, il n'y a plus cette discussion, on va dire, de l'investissement, du coût des soins. Donc ça, c'est très chouette d'avoir
ça simplifie un peu
les mains libres,
ça simplifie
beaucoup la communication. Et puis voilà, donc ça, c'était quand même assez confortable. Et en plus de ça, ils m'ont laissé pas mal pratiquer, toucher les choses et former, ce qui est pas toujours évident en stage en équine. Je pense que le fait pareil qu'il n'y ait pas la pression du propriétaire derrière qui veuille absolument que tout soit parfait et qu'il en ait pour son investissement, facilitait la chose. Et pendant ce stage, je rencontre aussi un réserviste. Donc je découvre par ce stage-là le fait que c'était possible d'être donc du coup en soutien et de venir donc ponctuellement aider cette antenne vétérinaire, tout en ayant l'avantage, notamment quand on est étudiant et cavalier, donc pas riche du tout parce qu'un cheval coûte cher, la possibilité d'être rémunéré pour donner un coup de main et en plus d'être formé. Donc je me suis dit c'est le trio gagnant. Et donc c'est pour ça que ils m'ont proposé à l'issue de mon stage de réaliser un dossier, ce que je me suis empressé de faire. Et donc voilà, depuis ma deuxième année d'école vétérinaire, je suis réserviste à Fontainebleau. Donc ça consiste en un soutien donc des vétérinaires, et en fonction de mes compétences, ils m'ont laissé faire de plus en plus de choses, jusqu'à faire des gardes en autonomie pendant mes dernières années d'études. Et donc assurer les soins, les urgences, finalement toucher un petit peu à tout, tout en ayant leur soutien et leur formation, ce qui était vraiment agréable et confortable. Et donc forcément, je me suis un petit peu posé la question, est-ce que je vais avoir la possibilité, entre guillemets, de rester, parce que j'aime quand même garder ce pied dans la pratique.
Concrètement, là, c'est des petits créneaux de garde le week-end de temps en temps.
C'est ça. Donc en fait, on s'engage à donner 3 à 90 jours par an. Donc c'est assez large, on va dire, dans les possibilités. Ils vont me demander en fait de temps en temps quelles sont mes prochaines disponibilités. Donc souvent ce dont ils vont avoir besoin, ça va être plutôt les week-ends ou pendant les vacances scolaires, ou si jamais il y a des vétérinaires qui lui est engagé peut partir à l'étranger, et donc ils vont avoir moins de personnel, et donc ils sont contents d'avoir quelqu'un qui peut venir les soutenir l'antenne, et puis les aider dans les tâches du quotidien. Et donc voilà, donc c'est des périodes ponctuelles et c'est toujours selon mes disponibilités et leurs besoins. Et donc ça a été assez variable. Il y a ces années où j'ai fait 5-6 semaines, il y a des années où j'ai fait quelques week-ends. C'est vraiment selon comment je suis disponible et aussi selon ma présence géographique. C'est vrai que
oui,
quand j'étais à Lyon ou à Nantes, c'était quand même plus compliqué.
Mais là, en ce moment, c'est plus facile.
Et là, en ce moment, comme je suis à Paris, c'est un petit peu plus simple. Et donc, effectivement, encore cette année, pendant mon stage en fusion-acquisition, il m'arrivait de partir le vendredi soir du travail et de prendre directement la voiture direction Fontainebleau pour enchaîner de la même journée, on va dire, de la banque d'affaires aux soins des chevaux qu'il y avait à Fontainebleau. J'apprécie beaucoup en fait ce changement et le fait de pouvoir toucher à tout, changer aussi un petit peu de pratique et d'air. Et puis ça me plaît de pouvoir garder un vrai pied dans la pratique.
Je sais aussi que tu fais de la prophylaxie sur tes congés un petit peu.
C'est ça. Il m'arrive aussi avec vrai plaisir de faire un petit peu de prophylaxie. J'ai fait quelques semaines par-ci par-là. Forcément, il y a aussi un intérêt financier, mais j'ai un vrai plaisir aussi à discuter avec les éleveurs. C'est quelque chose que j'ai découvert comme ça, quoi, parce que finalement, en études, on est toujours, on va dire, derrière le professeur ou derrière d'autres étudiants ou en stage derrière un vétérinaire. Là où c'est vrai qu'en prophylaxie, on nous donne la voiture, le matériel et on va faire notre tournée. Et j'ai trouvé ça assez sympa d'aller faire ça en région rennaise et en région Normandie, d'aller au porte-à-porte, d'éleveur en éleveur, rencontrer les gens. Pas trop d'inquiétude par rapport à mes compétences, parce que c'est vrai que la prophylaxie, une fois qu'on a la main, on s'en sort. Après, forcément, il m'est arrivé d'avoir plusieurs fois des questions d'éleveurs où c'est pas forcément facile de s'en sortir quand on a peu de pratique en rural. Et où on doit répondre à 2-3 questions.
Oui, parce que je m'en souviens.
Eux, ils voient très bien la carte vétérinaire, donc on se doit entre guillemets d'avoir une réponse. Donc c'était pas toujours évident, mais je m'en suis sorti et j'ai quand même eu pas mal de plaisir à faire ça, même si parfois c'était un petit peu dangereux. Bon, ça c'est les risques du métier et de la prophylaxie, mais non, dans l'ensemble, je m'en suis plutôt bien sorti. J'ai vraiment eu du plaisir à faire tout ça.
Alors ça m'inspire une question, parce que tu as dit que tu voulais garder un pied. Est-ce qu'il y a cette peur de renoncer à quelque chose en choisissant une autre voie? Alors tu l'as dit un peu, que tu avais du mal à choisir, tu l'as dit plusieurs fois.
Oui, forcément, il y a un peu cette peur de renoncer. Moi, je pense que dans ma vie idéale, si je pouvais pratiquer 1 ou 2 jours par semaine, en plus de mon autre métier, ça me permettrait à la fois de garder une connaissance et des compétences dans un secteur, et puis de profiter, de travailler sur d'autres sujets et d'avoir d'autres compétences. Je pense que si je pouvais, je ferais un métier par jour, par semaine.
Je crois que c'est un long chemin. On est beaucoup à voir. C'est long. C'est long de devoir choisir. C'est vrai que c'est un long cheminement, mais ça me fait penser. J'avais interviewé Tiffen Ragnou qui fait du bateau. Je sais pas si tu l'as écouté son épisode.
Oui.
Et c'est pareil. Elle avait beaucoup de mal à concilier la voile et son métier de vétérinaire parce qu'elle ne peut pas renoncer à aucun des deux. Mais je crois que c'est un dilemme qu'on a tous en nous, parce que ce sont des études pour lesquelles on a beaucoup investi.
Oui, effectivement. Et puis, un vrai plaisir quand même de savoir... pas envie de perdre les compétences.
Oui, il y a ça. Et puis, il y a une vraie identité, je pense aussi.
Oui.
Complètement. Est-ce qu'on aurait oublié quelque chose?
Alors, j'aimerais aussi éventuellement parler de mon stage à l'étranger que j'ai fait pendant mes études vétérinaires. Alors, je devais le faire en l'été de 3e année. Forcément, ça a été décalé à cause du Covid. Et en fait, je suis parti avec une ONG qui s'appelle Objectif Science Internationale, qui est une très chouette association qui, en fait, propose des périodes de, on va dire, entre guillemets, de vacances scientifiques.
D'accord.
Qui sont en fait du volontariat dans des associations.
On pourra mettre le lien dans les commentaires.
Oui. Et en fait, donc je suis parti uniquement parce que j'ai discuté avec une ancienne étudiante vétérinaire qui était partie avant moi et qui m'avait très très bien vendu ce voyage. Et aussi parce que je crois que le film de Sylvain Tesson n'était pas encore sorti, mais l'intitulé du voyage me faisait rêver. Donc c'était aller étudier les panthères des neiges au Kyrgyzstan.
Magnifique.
Donc, ça m'a vraiment vendu du rêve. En plus, elle m'a dit, on part à cheval pendant 6 semaines dans les montagnes.
Oh, bah, parfait.
Donc, je me suis dit, c'est exactement ce qu'il me faut. Et donc, je suis parti faire 6 semaines de stage, donc 2 fois 3 semaines d'expédition dans les montagnes, dans des réserves naturelles entre le Kyrgyzstan à la frontière chinoise. C'était vraiment extraordinaire. C'était une belle découverte. Donc, je suis parti avec une équipe de 3 personnes, puis 5 personnes qui sont des volontaires qui peuvent avoir un peu tous les profils d'études ou de formation, etc., d'âge. Donc c'est vraiment ouvert à tout le monde. On est formé en préalable avant de partir sur le terrain. Et en fait, l'idée, c'est de prêter une paire d'yeux et une paire de mains pour pouvoir aller observer la nature et comptabiliser donc à la fois les proies et les prédateurs qui sont présents dans cet écosystème, et poser des pièges photographiques donc qui viennent capturer les passages de la panthère dans les endroits les plus propices à leur passage. Et donc c'était vraiment chouette. On est parti comme ça complètement en autonomie avec un très bon encadrement. On avait donc une encadrante française, une personne locale kirghize qui faisait l'intermédiaire aussi, qui parlait ou français ou anglais, et puis kirghize. Et puis avec 3 gardes de la réserve qui eux sont là pour assurer entre guillemets notre sécurité en cas de besoin, et puis un petit peu tout ce qui est logistique, notamment vis-à-vis des chevaux. C'était une très belle expérience, et je peux que conseiller à d'autres étudiants vétérinaires ou même des auditeurs qui ont envie de partir en vacances, profiter. Ça a de gros avantages, notamment le fait que il faut malheureusement, enfin, obligatoirement financer entre guillemets ce départ-là, même si on vient donner un coup de main, parce que ça permet de financer tout le matériel scientifique sur
Bien
place.
Sûr.
Ça permet de financer aussi les gardes de la réserve qui, mine de rien, permettent de maintenir ces réserves naturelles en place. Donc c'est des associations qui sont à but non lucratif, mais qui permettent de perdurer ces choses-là, et donc qui offrent une défiscalisation à 66% du voyage. Ce qui fait que, on va dire, par exemple, pour un voyage d'une semaine, de 3 semaines, il faut compter à peu près 1 000 euros, tout compris, donc pour toutes les accommodations, la nourriture, etc. Donc voilà, c'est un certain investissement, mais ça reste quand même quelque chose qui est assez raisonnable pour l'expérience que c'est. Et je trouve que finalement, c'est de l'argent qui est bien investi, parce qu'il sert à de belles causes. Et ça m'a tellement plu que je suis reparti l'année dernière avec la même ONG sur un autre programme, cette fois-ci à Tahiti, sur la recherche des dauphins. Donc on a aidé une doctorante à faire ses recherches sur le comportement et l'évaluation de la population de dauphins dans une atoll au large de Tahiti. Pareil, c'était une expérience extraordinaire, à la fois d'avoir toute la connaissance et toute la passion de cette doctorante qui nous a très très bien formés, qui nous a appris énormément de choses, et puis le fait d'être dans un milieu hors du temps. Et puis des plongées extraordinaires avec les dauphins qui sont venus nous voir pratiquement tous les jours de nos plongées. Très belle expérience.
Tu recommandes, quoi.
Je recommande vraiment. Et puis après, il y a d'autres choses dans leur catalogue et dans leurs associations. Donc pas hésiter à regarder.
Heureusement que tu es là, parce que sinon j'aurais pas tenu ma promesse de l'introduction en disant qu'on parlerait un peu de voyage. Tu vois, j'avais oublié. Comment on peut te contacter?
Alors, vous pouvez me contacter sur LinkedIn. Je pense que c'est assez simple. Ou par mail. On pourra mettre mon mail.
Alors, on n'écrit pas les mails dans les commentaires, parce que sinon, on peut les trouver avec les petits robots. Alors, je sais pas, je l'ai sous les yeux. Ton mail, je peux le donner. paul.nedelec@gmail.com. Merci Paul, du coup, pour ce parcours qui était vraiment différent, je pense. C'est ça que les auditeurs retiendront. Je pense qu'ils auront noté ton dynamisme et ta grande curiosité. Il nous reste à te souhaiter plein de belles découvertes pour ce deuxième stage de césure. Et puis, je finirai avec cette phrase de Christophe de Goerz, que la valeur de notre diplôme réside dans sa capacité à essaimer. Bonne journée, Paul. À
Merci
bientôt.
Merci beaucoup. Bonne journée.
Merci d'avoir écouté cet épisode de Vétomicro. Si le cœur vous en dit, partagez-le à vos amis et à vos collègues, abonnez-vous au podcast et mettez-nous une note de 5 étoiles avec un gentil commentaire. C'est ce qui nous permet de remonter dans les classements et de donner de la voix à la profession. Si vous souhaitez participer à Vétomicro, nous suggérer des invités ou tout simplement nous écrire, faites-le sur l'adresse podcast@themavet.fr. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine pour écouter une nouvelle façon d'être vétérinaire.